Très heureux d'être avec vous sur Présence entre midi et deux. Alors oui, il fait pas très beau, mais on fait tout notre possible pour que vous puissiez passer un bon moment avec votre radio préférée. Et comme chaque jour, vos rendez-vous dans 4 minutes. Isabelle Honnel, elle reçoit Marie-Hélène Robin, enseignante chercheure à Purpan. Le sujet est sur les insecticides. L'insecticide, plus précisément, le plus vendu au monde, mais son usage agricole est interdit en France depuis 2018. Dans 20 minutes, Église Actualité avec Emmanuel Pella, on ira faire le tour des diocèses dans le pays du rugby. Ne loupez pas, c'est dans deuxième partie de l'heure, oui. En deuxième partie de l'heure aussi, votre chronique Église verte. Mais avant tout ça... Le rappel des titres. Le maire de Toulouse, entendu par le Premier ministre aujourd'hui. Le maire de Paris, Lille, Lyon, Grenoble et Toulouse seront reçus par le Premier ministre Jean Castex afin de discuter d'éventuelles adaptations des mesures de restriction en raison de l'épidémie de Covid-19. Jean-Luc Moudenc devrait être accompagné du directeur général de l'Agence régionale de santé et du préfet de Haute-Garonne. L'inquiétude grandit dans les EHPAD de Haute-Garonne. Ce sont 77 sur 131 établissements qui sont ou ont été touchés par le coronavirus, soit 60% des établissements du département. Le ministre de l'économie a donné la liste des services des finances publiques qui vont être décentralisés en Occitanie. 5 communes sont concernées, Mende, Perpignan, Tarbes, Cahors et Decazeville. Diminution de la consommation d'électricité pendant le confinement en Occitanie comme dans d'autres régions de France. La commission d'électricité a fortement chuté jusqu'à 15% et n'a toujours pas retrouvé son niveau habituel. Les terrasses étendues sont prolongées jusqu'au 31 décembre dans la Ville Rose. À Toulouse, les 350 bars et restaurants ayant obtenu une autorisation d'extension de terrasses en juin pourront les conserver jusqu'au 31 décembre s'ils respectent bien sûr les mesures sanitaires. 6 personnes en garde à vue soupçonnées de financement du terrorisme. 29 personnes, dont 6 en Occitanie, ont été arrêtées et placées en garde à vue après une vaste opération antiterroriste menée en France mardi. Des perquisitions ont eu lieu, notamment dans l'Hérault, le Gard, en Haute-Garonne. Un collectif pour protéger les chevaux des mutilations dans le Tarn-et-Garonne. L'idée de SOS Chevaux, dissuader d'éventuels actes de malveillance alors que des équidés sont mutilés sur l'ensemble du territoire. Le Toulousain Hugo Gaston se qualifie pour le troisième tour du tournoi de Roland-Garros. Il s'est qualifié hier pour le troisième tour de Roland-Garros en éliminant le japonais Yoshihito Nishioka, 52e mondial en 4-7. Le fragment du tableau à la bataille de Constantin contre Maxence de Nicolas Tournier, acquis par le musée des Augustins. C'est un collectionneur qui a alerté le directeur du musée des Augustins de Toulouse 3 jours seulement avant la vente.
La météo.
Prenez votre parapluie pour cet après-midi. Des averses partout dans l'ex-région Midi-Pyrénées. 16 degrés en moyenne. Demain matin, ça ne change pas. Un temps très agité tout près de l'église Saint-Maur à Martel avec du 12 degrés ainsi qu'à Rodez. Et de fortes pluies pour Lourdes. 13 degrés à côté du cinéma de Blagnac et dans le Gers. L'après-midi, ça sera exactement pareil. Il fera mauvais dans l'Occitanie. Le Capitole à Toulouse sera sous les trombes d'eau. Un petit 13 degrés ainsi qu'à Auch et Montauban. 12 dans le Lot et 10 dans l'Aveyron.
Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Interdits depuis 2018, les néonicotinoïdes pourraient bien faire leur réapparition dans les champs. L'Assemblée nationale doit examiner lundi 5 octobre, lundi prochain donc, un projet de loi permettant à la filière betteravière d'avoir de nouveau recours à cet insecticide qui divise écologistes et agriculteurs. Alors quel est le sens de ce revirement? On fait le point avec vous, Marie-Hélène Robin. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes enseignante chercheuse en protection des cultures à Purpan. Vous êtes également chercheur associé à l'INRA, c'est l'Institut National de la Recherche Agronomique. Alors que sont d'abord les néonicotinoïdes?
Alors les néonicotinoïdes, c'est une catégorie d'insecticides la plus vendue au monde. Ces insecticides agissent sur le système nerveux central des insectes Et ils sont dérivés d'un produit bien connu qui est la nicotine. Alors, ce qui est très original dans ces produits-là, c'est qu'ils sont systémiques. Ça veut dire qu'ils circulent dans le système vasculaire et ils se diffusent dans toute la plante, de la graine jusqu'aux feuilles et jusqu'au pollen et jusqu'au nectar.
Alors, et alors à quoi était-il... Oui. Oui. Par qui était-il utilisé et à quelle fin ?
Alors, ils ont été utilisés puisqu'on parle au passé, puisque comme vous l'avez dit, ils sont interdits depuis 2018. Donc, ils ont été utilisés par les agriculteurs en traitement de végétation, surtout en arboriculture, en traitement de semences, puisqu'ils enrobent, ils enrobaient les graines qui étaient semées. Et par contre, ils sont toujours utilisés pour un usage vétérinaire, puisqu'il y a plus de 50 produits antiparasitaires qui le contiennent. Donc, quand vous achetez un collier antipuce pour vos chiens ou vos chats, eh bien, il est à base d'imidaclopride, qui est une des néonicotinoïdes. Et il y a plus de 300 produits biocides aujourd'hui contre les blattes, les termites, etc., qui en contiennent. Donc, tous les usages agricoles sont interdits depuis 2018 et 2019, mais il reste encore aujourd'hui des usages vétérinaires.
Alors, ils sont interdits donc, dans les usages agricoles, vous nous le dites, interdits car il a été avéré qu'il tuait, qu'il participait non seulement à tuer les pucerons, mais aussi les abeilles, hein, c'est bien ça. D'où le sens de notre interrogation ce matin. Pourquoi est-ce que le gouvernement s'apprête peut-être, là c'est l'Assemblée nationale qui le dira, hein, à réautoriser un produit présenté comme tueur d'abeilles?
Donc, juste pour revenir sur la toxicité par rapport aux pollinisateurs, ça a été mis en évidence par de très nombreuses études. Non seulement ça a un effet létal, mais aussi un effet sublétal, puisque ça perturbe, par exemple, l'orientation des abeilles. Ce qui veut dire aussi, c'est que c'est des produits qui sont très rémanents dans l'environnement, puisque seulement 10% des produits enrobés sur les semences sont absorbés par la plante, donc 90% persistent dans les sols. Et par exemple, pour l'imidaclopride, sa demi-vie, c'est-à-dire la durée au bout de laquelle la moitié du produit persiste encore dans le sol, est de 228 jours. Ça veut dire qu'au bout de 228 jours, vous avez encore la moitié du produit initialement appliqué. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve dans les sols, dans l'eau, dans l'air, etc. Et donc la culture qui arrive après, pendant plusieurs semaines, voire pendant des années, eh bien, elle est aussi impactée par la présence de ces produits dans les sols. Donc c'est le problème, il est bien au-delà des abeilles. Le problème, il est aussi pour les champs qui sont contaminés pendant plusieurs années après l'application de ces produits. Alors, oui, je vais répondre à votre question. Pourquoi le gouvernement va autoriser de nouveau des néonicotinoïdes, en tout cas deux sur les traitements de semences de betteraves? Car en 2020, il y a eu un certain nombre d'attaques causées par des pucerons sur les betteraves qui entraînent des maladies virales. En vérité, il y a 4 virus. Et ceci est dû au fait qu'on a eu un hiver très doux et un printemps très doux. Et plus les hivers sont doux, plus les sorties de pucerons au printemps seront précoces et plus les pucerons seront nombreux. Or, il n'y a pas vraiment d'alternative aujourd'hui pour lutter contre ces pucerons parce que les traitements en végétation sont très peu efficaces. Donc pour les agriculteurs, il n'y avait plus que les traitements de semences. Or, les traitements de semences, comme vous l'avez dit, sont interdits depuis 2018. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que cette année, donc, on a des symptômes qui sont très importants de jaunisse et qui entraîneraient des pertes moyennes de 15%. Mais c'est aussi une année avec un stress hydrique très important puisqu'il n'y a jamais eu autant, aussi peu de pluie cet été. Et l'été a été vraiment très, très chaud dans le nord de la France. Et donc, il y aurait aussi la probabilité qu'il y ait une interaction entre ces stress hydriques et la présence de ces pucerons en abondance et peut-être aussi les jaunisses qu'on a pu observer.
Alors, il faut peut-être rappeler aussi que la France est deuxième producteur, je crois, mondial de betteraves. 46 000 emplois environ sont en jeu. On comprend bien les considérations économiques, mais tout de même, c'est quand même étonnant qu'on puisse... vous nous avez donné un certain nombre d'études qui font que c'est complètement avéré la toxicité de ce produit. Et pour des enjeux économiques, on vienne le ressortir. Il n'y a pas d'autre solution, Marie-Hélène Robin ?
Ce qui est étrange aussi, c'est que rien ne dit que l'année prochaine, ces pucerons seront là, puisque il faut qu'il y ait un hiver et un printemps doux pour qu'ils arrivent précocement sur les cultures. Donc rien ne dit qu'en 2021, il y aura un risque ni en 2022. Et pourtant, le gouvernement devrait décider pour 3 ans une dérogation autorisant ces produits. Donc on peut s'interroger sur la réelle objectivité de cette décision. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre pendant 3 années à la recherche, qui a été freinée par le développement des néonicotinoïdes, de pouvoir trouver des solutions alternatives. Et ça, c'est quand même intéressant, ce qui fait que dans 3 ans, eh bien, normalement, on aura peut-être des réponses à l'usage des néonicotinoïdes.
Alors, les détracteurs de cet insecticide pointent du doigt la course au rendement qui rendrait indispensable ce pesticide. Est-ce qu'une autre agriculture est possible ? On ne va pas trancher le débat maintenant, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus, Marie-Hélène Robin.
Oui, alors, les rendements de betteraves, d'ailleurs, sont très hauts et ont augmenté ces dernières années, à la différence d'autres cultures. Alors, en tout cas, pour les solutions alternatives qui voient le jour, il y a des solutions qui sont au niveau de la culture, comme par exemple la solution génétique. À ce jour, il y a 4 variétés qui sont en cours d'évaluation pour leur résistance aux jaunisses. Mais bon, il faut un certain temps pour les mettre sur les marchés. On pense aussi au niveau de la conduite culturelle, à décaler la date de semis, parce qu'actuellement, la filière demande des semis très précoces, alors qu'on pourrait semer plus tard. On s'interroge aussi sur le rôle de la fertilisation azotée. Et puis, ce qui est très important, c'est de remettre de la biodiversité à l'échelle de la culture et à l'échelle des paysages, c'est-à-dire remettre des bandes fleuries, remettre des cultures autour des parcelles de betteraves qui puissent attirer les pollinisateurs, et qui puissent attirer aussi les auxiliaires qui pourraient ensuite venir s'attaquer aux pucerons. Donc ça, c'est vraiment très important, parce que autour des parcelles de betteraves, eh bien, il n'y a plus de biodiversité. Et donc, à l'échelle des paysages, il faut absolument augmenter non seulement la mosaïque des paysages pour accroître les capacités de régulation biologique, mais également à l'échelle des parcelles. Ça, c'est vraiment très important. Et je pense que l'agroécologie, l'approche agroécologique, c'est vraiment l'avenir aussi.
La clé. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Hélène Robin. Vous êtes, je le rappelle, enseignante chercheuse en protection des cultures à Purpan. On en sait dorénavant un peu plus sur ce débat qui divise écologistes et agriculteurs, les néonicotinoïdes. Rendez-vous à l'Assemblée le 5 octobre prochain pour le projet de loi. Merci.
Merci, au revoir.
Dans pas très longtemps, 5 minutes grand max, vous aurez Église Actualité. Emmanuel Pella vient tous les jours pour vous dire tout sur son agenda. Le temps qu'il se prépare, la voix puissante de Florent Pagny avec son morceau Caruso pendant cette pause repas dans l'ex-région Midi-Pyrénées. En voiture ou à la maison, Radio Présence nous unit. Retrouvons-nous. Il est actuellement midi 13.
Oui, dove il mare luccica. Il tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia un canto. Se voglio bene sai, ma dando tanto bene sai, è una catena ormai, che scioglio il sangue di te bene sai. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le luci là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma Quando vide la luna uscire d'una nuvola, mi sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e mi credette di affogare. Se voglio bene assai, ma non tanto bene sai, è una cosa ormai. E scioglio sangue di te bene sai. Senza della lirica, dove ogni dramma un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare anche un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini, veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita, una scia d'unica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma non tanto bene sai, ma è una cosa ormai.
Présence à Luchon, 94 FM.
Église Actualité, Emmanuel Pella.
Demain, pour rappel une dernière fois, à Bellegarde-Sainte-Marie, les frères de l'abbaye Sainte-Marie du Désert proposent de venir participer à une célébration d'action de grâce à l'occasion du jour anniversaire de la béatification du père Marie-Joseph Cassan, issu de cette même abbaye, un temps important puisque les moines de ce monastère cistercien, fondé en 1852, vont quitter ce lieu faute de vocation. Rendez-vous ce vendredi à 18h à l'abbaye Sainte-Marie du Désert à Bellegarde-Sainte-Marie. Ce samedi 3 octobre à Dourgne commencera le 12e pèlerinage des mères de famille organisé par le diocèse de Toulouse. Deux jours de marche, de topo, de prière et de partage sur le thème « Femme, tu as du prix à mes yeux ». Un pèlerinage qui sera accompagné par le père Tanguy-Marie Pouliquin, prêtre et religieux de la communauté des Béatitudes. À noter que cette année sera proposée la possibilité de vivre un e-pèlerinage, soit de participer au pèlerinage depuis chez soi. Pour tout renseignement, un site internet www.pledemer31.fr. Ce samedi 3 octobre également, à Espelette, le centre spirituel jésuite Cotopaïs du Sud-Ouest organise une halte en montagne, au Pays Basque. une randonnée accompagnée spirituellement au col des Trois Croix et vers le col des Vaux. Rendez-vous dès 9h au parking Danton à Espelette ce samedi 3 octobre. Ce dimanche 4 octobre, pour rappel, à Seignac, le diocèse de Rodez propose une journée mariale organisée par les Dominicains de Toulouse en lien avec le pèlerinage national du Rosaire à Lourdes. Au programme, temps de prière, d'échanges et de rencontres et chapelet en direct de Lourdes par visioconférence. Rendez-vous ce dimanche dès 11h à la basilique Notre-Dame à Seignac. Enfin, ce dimanche 4 octobre toujours, à Moissac, la communauté Marie-Mère de l'Église, installée dans le diocèse de Montauban, organise un rallye vélo pour les jeunes, dans la lignée des PLVTT, un temps de détente et un temps spirituel. Pour tout renseignement, un site internet www.marie-mère-de-l'église.fr.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com. Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Le rappel des titres. Le maire de Toulouse a entendu par le Premier ministre aujourd'hui. Le maire de Paris, à Lille, Lyon, Grenoble et Toulouse seront reçus par le Premier ministre Jean Castex afin de discuter d'éventuelles adaptations des mesures de restriction en raison de l'épidémie de Covid-19. Jean-Luc Moudenc devrait être accompagné du directeur général de l'Agence régionale de santé et du préfet de Haute-Garonne. L'inquiétude grandit dans les EHPAD de Haute-Garonne. Ce sont 77 sur 131 établissements qui sont ou ont été touchés par le coronavirus, soit 60% des établissements du département. Le ministre de l'économie a donné la liste des services des finances publiques qui vont être décentralisés en Occitanie. 5 communes sont concernées, Mende, Perpignan, Tarbes, Cahors et Decazeville. Diminution de la consommation d'électricité pendant le confinement en Occitanie comme dans d'autres régions de France. La commission d'électricité a fortement chuté jusqu'à 15%. Et n'a toujours pas retrouvé son niveau habituel. Les terrasses étendues sont prolongées jusqu'au 31 décembre dans la Ville Rose. À Toulouse, les 350 bars et restaurants ayant obtenu une autorisation d'extension de terrasses en juin pourront les conserver jusqu'au 31 décembre s'ils respectent bien sûr les mesures sanitaires. 6 personnes en garde à vue soupçonnées de financement du terrorisme. 29 personnes, dont 6 en Occitanie, ont été arrêtées et placé en garde à vue après une vaste opération antiterroriste menée en France mardi. Des perquisitions ont eu lieu, notamment dans l'Hérault, le Gard, en Haute-Garonne. Un collectif pour protéger les chevaux des mutilations dans le Tarn-et-Garonne. L'idée de SOS Chevaux, dissuader d'éventuels actes de malveillance alors que des équidés sont mutilés sur l'ensemble du territoire. Le Toulousain Hugo Gaston se qualifie pour le troisième tour du tournoi de Roland-Garros. Il s'est qualifié hier pour le troisième tour de Roland-Garros en éliminant le japonais Yoshihito Nishioka, 52e mondial en 4-7. Le fragment du tableau à la bataille de Constantin contre Maxence de Nicolas Tournier, acquis par le musée des Augustins. C'est un collectionneur qui a alerté le directeur du musée des Augustins de Toulouse 3 jours seulement avant la vente.
La météo.
Prenez votre parapluie pour cet après-midi. Des averses partout dans l'ex-région Midi-Pyrénées. 16 degrés en moyenne. Demain matin, ça ne change pas. Un temps très agité tout près de l'église Saint-Maur à Martel avec du 12 degrés ainsi qu'à Rodez. Et de fortes pluies pour Lourdes. 13 degrés à côté du cinéma de Blagnac et dans le Gers. L'après-midi, ça sera exactement pareil. Il fera mauvais dans l'Occitanie. Le Capitole à Toulouse sera sous les trombes d'eau. Un petit 13 degrés ainsi qu'à Auch et Montauban. 12 dans le Lot et 10 dans l'Aveyron.
Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré.
C'était Glorious sur votre radio chrétienne dans l'ex-région Midi-Pyrénées.
Présence.
Pour l'émission Le Tour des diocèses, nous allons à côté de chez nous, dans la Nouvelle-Aquitaine, retrouver Isabelle Honnel.
Nous partons dans le diocèse de Bayonne, retrouver Olivier Drapé, il est le délégué épiscopal à l'information. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Isabelle.
Alors, que note-t-on pour le diocèse de Bayonne pour la quinzaine à venir?
Alors écoutez, tout va bien dans le diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron, en dépit des circonstances et des mesures sanitaires qui, comme partout, nous sont imposées. Mais un certain nombre d'initiatives ou de réunions méritent, je pense, d'être mentionnées. Certains événements ne sont peut-être pas ouverts à tous. C'est le cas, par exemple, d'une importante rencontre. C'est la troisième du genre qui aura lieu à Salis de Béarn pour les parcours alpha, mais qui n'est destinée qu'aux animateurs des parcours alpha ou aux curés et prêtres de paroisse qui ont déjà un parcours alpha. C'est le samedi 3 octobre à Salis de Béarn, dans la salle paroissiale Saint-Vincent de Salis de Béarn, de 9h30 à 17h. Et puis, il y a des événements qui, comme je le disais, malgré les circonstances, sont maintenus à charge pour les organisateurs de s'adapter aux contraintes et mesures qu'il faut prendre. Mais je pense par exemple à certains concerts, comme un beau concert de chansons françaises et de chants de louanges, qui est un concert à trois voix intitulé « Entre ciel et terre », donc il y a une dimension spirituelle incontestablement, qui aura lieu à l'église Sainte-Bernadette de Pau à 20h30, donc le 3 octobre, avec Zuni, Nathalie et Philippe Jungmann. L'entrée est libre et la participation est libre également. Et un concert équivalent, entre parenthèses, sera donné un peu plus tard, le 17 octobre, à Gand, à 20h30. Mais nous y reviendrons peut-être. En attendant, on peut aussi mentionner un événement ouvert, bien entendu, à tout le monde, qui est la traditionnelle braderie des associations familiales catholiques, le 5 et le 6 octobre à Pau, au centre diocésain du Béarn, c'est 11 avenue du Béarn. Alors le lundi 5, c'est de 12h à 20h, le mardi 6 octobre, de 8h30 à 10h30, et on y trouve des vêtements d'enfants, de femmes, des uniformes ou accessoires de scoutisme, accessoires de sport, jouets, etc. etc.
Et tout plus ça à des prix modestes.
Tout à fait, des prix tout à fait modestes et très intéressants. Par ailleurs, et peut-être plus important d'un point de vue pastoral, je mentionne le mardi 6 octobre, à Salis de Béarn, la journée de rentrée des catéchistes, qui s'appelle Catéchèse en fête. Ça aura lieu dans les salles paroissiales de Salis de Béarn, c'est-à-dire rue Monseigneur d'Arricade, de 9h à 16h30. Et bien entendu, cette réunion s'adresse en priorité aux personnes qui sont bénévoles, qui sont impliquées dans la catéchèse au niveau de leur paroisse. Il faut noter que Mgr Hayet anime cette journée sur le thème du nouveau directoire pour la catéchèse du Saint-Siège. Le repas commun prévu est annulé, chacun doit apporter son pique-nique. Mais compte tenu notamment des mesures là aussi qu'il faut prendre pour cette journée, et peut-être des restrictions en nombre de personnes qui peuvent y participer, les personnes intéressées sont invitées à se renseigner peut-être pour leur inscription, le mail étant catéchèse@diocèse64.org.
Eh bien, merci beaucoup,
quels sont
Olivier.
Les principaux événements.
Eh bien, il y en a beaucoup, il s'en passe des choses dans le diocèse de Bayonne. Un grand merci, à dans 15 jours.
À très bientôt, Isabelle, au revoir.
L'aventure Église verte pour les communautés chrétiennes qui s'engagent dans le soin de la création. Laura Morosini.
Pourquoi François d'Assise est dit protecteur céleste des écologistes? Le 4 octobre, dans le calendrier catholique, le saint du jour est François d'Assise. C'est pour cela que cette date a été choisie pour clore la saison de la création qui démarre le 1er septembre. En 1979, déjà, François avait été désigné par une bulle de Jean-Paul II, protecteur céleste des écologistes. Mais pourquoi exactement lier François à l'écologie? On en trouvera trois origines. La première est le cantique à Frère Soleil, « Laudato si, mi signore, con tutte le creature, specialmente messer lo frate sole ». Voici les premiers mots en italien ancien du cantique des créatures. Ce chant a été composé par François d'Assise en 1224, peu avant sa mort. Et ce sont les deux premiers mots, Laudato aussi, qu'a choisi le pape François comme titre de sa lettre encyclique sur l'écologie en 2015. Généralement, les titres des encycliques sont en latin, mais là, il a choisi de garder la pauvreté de l'italien du Moyen-Âge en hommage à François. Le cantique des créatures loue le Seigneur par chacune des créatures, le soleil, la lune, l'air, l'eau, le feu, la terre. François affirme ainsi une fraternité cosmique avec les créatures. Il ne se limite pas à remercier le Seigneur pour les créatures de ce monde, il s'appuie sur elles. Et cette idée de louange avec l'ensemble de la création est un enseignement précieux pour nos célébrations et nos rapports personnels avec la création. La deuxième raison est son rapport avec les animaux. On dit souvent que François était un frère universel. Il désignait chaque créature comme fille de Dieu. De là en découlait un sentiment de fraternité. On connaît l'histoire de son amitié avec le loup de Gubbio qui terrifiait les villageois mais a obéi à François. On connaît aussi sa fraternité avec les arbres. Il veillait à ce qu'on ne les coupe qu'avec de solides motivations, et même avec les vers de terre qu'il déplaçait quand il craignait qu'ils se fassent écraser. Cette tendresse évangélique peut nous enseigner au moins à nous garder de jugements hâtifs sur les personnes qui sont dotées de cette sensibilité. La troisième raison pourrait être sa sainteté provocatrice et prophétique. Il a choisi la radicalité. Ce mot peut être effrayant, mais c'est aussi la radicalité que choisissent aujourd'hui tant de jeunes pour s'opposer à la maltraitance animale, pour le climat, pour la protection d'espaces naturels. Tout le monde n'est pas François qui osa marcher nu dans son village, mais notre prière, elle, peut embrasser toutes les personnes aux engagements prophétiques.
Radio Présence, aux portes du Tarn. 97.9.
Dans 5 minutes, retrouvez comme tous les jours, du lundi au vendredi, votre évangile commentaire avec le Père Benoît. Et ce week-end, il ne va pas faire très beau. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la nature. Mais vous allez me dire, oui, mais nous, attendez, j'y viens. Vous pouvez profiter de votre radio, même si vous n'avez pas de poste. Oui, c'est sur le www.radioprésence.com. Et vous aurez aussi une sélection de podcasts. C'est plutôt pas mal. Tout de suite, Gordon Natt, sur Présence. Il est 12h36.
Dans les stigmates.
Dans les stigmates de ses mains, il y a tout la Étoile, qu'attends-tu? Pourtant convaincu, tu ne sais pas si demain tu seras en vie pour prier au monde entier que Jésus est ressuscité. Il vit à jamais. Oui, chante et danse. Il vit à jamais.
Radio Présence à Toulouse, 97.9. L'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara: amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Acclamons la parole de Dieu.
Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Or, on l'appelle la petite Thérèse. Grandeur, petitesse. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Cette question est posée par les apôtres. Alors Jésus, en guise de réponse, prend un tout petit enfant pour répondre à cette réponse. Et donc, il nous dit, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Finalement, quand on pense à la petite Thérèse, mais quelle grandeur, on est d'accord, en particulier à l'occasion de sa profession de foi, profession religieuse, pardon, lorsque... précisément, elle accomplira, autant que ce sera possible pour elle, l'évangile de ce jour. Elle écrit une petite prière qu'elle a bien sûr consignée dans l'histoire d'une âme. Et dans cette prière, elle formule trois demandes. Le don de l'amour infini, être la plus petite. Et elle demande le salut de tous les hommes. Et donc, effectivement, quand nous feuilletons, nous lisons, on peut même la dévorer, cette histoire, histoire d'une âme, qui fut publiée un an après sa mort. C'est une histoire d'amour dans laquelle il y a quelqu'un qui revient sans cesse. Un nom revient sans cesse dans cette histoire, c'est le nom de Jésus. Donc vous le savez, Thérèse est la dernière fille de Louis et Zélie Martin, qui ont été canonisés par le pape François il y a peu, en 2015. Et pour dire cela en quelques 2, 3, 4 minutes, donc c'est vrai qu'on connaît des étapes importantes dans sa vie et qui pour nous certainement sont tout à fait significatives. À l'âge de 4 ans, Thérèse perd sa maman. Ce fut un très grand choc évidemment pour elle. Et c'est alors que son père, sa famille, quitte Alençon en Normandie
et elle s'installe donc à Lisieux qu'elle ne quittera pas. Donc d'abord, pour dire ça comme ça, mais c'est très connu, elle vit d'abord une grâce de Noël, puis après ce sera la grâce de Pâques. Mais la grâce de Noël, donc en 1886, elle a 13 ans et elle demande au Seigneur de toutes ses forces de la guérir de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui son hypersensibilité, et le Seigneur exaucera son vœu. L'année suivante, en 87, c'est très connu également, elle a tout juste 15 ans, elle va donc en pèlerinage à Rome avec son père, l'une de ses sœurs, et elle va donc rencontrer le pape d'alors, le pape Léon XIII, et elle demandera audience, enfin, pendant l'audience, elle demandera, alors que ça paraît impossible à nos yeux, elle demandera donc cette indulgence, cette permission, alors qu'elle est trop jeune, d'entrer au Carmel. Et la permission lui sera accordée, et un an plus tard, effectivement, donc, elle rentrera au Carmel de Lisieux. Et dans le même temps, donc, commence pour elle quelque chose de très difficile avec son père, qui sera frappé, et ce sera progressif, hélas, d'une maladie mentale reconnue. Voilà. Et donc, Thérèse vit cette grâce de Noël, et en même temps, déjà s'annonce cette grâce de Pâques. Et c'est vrai que, finalement, dans son nom, Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, grâce de Noël, et de la Sainte Face, il y a, finalement, comment résumer toute la vie de Jésus. Je pense à François d'Assise, mais à beaucoup d'autres saints, c'est la même chose. François d'Assise, vous savez, qui est à l'origine de la première crèche vivante, Greccio, c'est donc la grâce de l'enfance, et puis la grâce des stigmates, la grâce de Pâques, beaucoup de saints. Donc finalement, ont vécu sur eux-mêmes, j'allais dire, toute la vie de Jésus, de Bethléem à la croix. Et donc, 10 ans après la grâce de Noël, c'est la grâce de la passion. Passion du corps, certes, la maladie. Elle a vécu une maladie terrible, et puisqu'elle est morte toute jeune, si ma mémoire est bonne, c'est à 23 ans qu'elle nous a quittés. Mais par-dessus tout, j'allais dire, c'est la passion de l'âme, avec un doute terrible. Donc vis-à-vis de la foi, mais jusqu'au bout elle tiendra. Et donc combien de fois, c'est vrai que ça nous dépasse, mais ça me dépasse totalement, mais elle dira régulièrement, y compris dans les nuits les plus sombres, Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Alors, on peut imaginer à quel prix, bien sûr. Et c'est dans ce contexte que Thérèse vit l'amour au cœur de l'Église, à temps et surtout à contre-temps. Lorsqu'elle va nous quitter, lorsqu'elle meurt, c'est difficile de dire qu'elle meurt parce que c'est un fait rare, mais on l'a prise en photo juste après sa mort, et si vous la connaissez, cette photo, elle est bouleversante, elle a comme un sourire sur ses lèvres, comme pour nous dire, vous voyez, nous tenons bon jusqu'au bout. Et alors le Seigneur nous éclaire très discrètement, certes, parce que les mystères de la mort demeurent néanmoins, mais n'empêche, tout cela a du sens. Et vous voyez que décidément, ces textes qui ont été choisis en son honneur, Isaïe, mais je n'ai pas assez de temps pour reprendre ce très beau texte, sinon l'évangile d'aujourd'hui, celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui rentrera dans le royaume, c'est vraiment toute la vie de Thérèse. Donc encore une fois, de l'enfant de la crèche à la croix. Sainte Thérèse vous invite à emprunter ce, autant que c'est possible pour nous, bien sûr, d'emprunter ce même itinéraire où nous sommes invités à faire confiance. Donc vous voyez que décidément, ici, à la grotte, il y a eu Bernadette, toute petite, mais tellement grande également dans son âme, il y a eu donc toutes ces saints, ces saintes, ça s'appelle la communion des saints, et donc nous nommons aujourd'hui plus spécialement Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Voilà, il nous accompagne. Voilà, demain, ce sera donc la fête des saints anges gardiens, mais bien sûr que nos anges nous gardent, mais les saints, eh bien, eux aussi, ils nous gardent par la main. Et donc, cette communion des saints, c'est ce que nous célébrons tout de suite, avec Marie, tous les saints, et puis les parents, et tant d'autres, donc, amis de Sainte Thérèse. Amen.
Vous aurez dans une poignée de minutes le rappel des titres dans l'Occitanie et dans la prochaine heure, dans 10 minutes, votre journal international de Radio Vatican. Pour tout savoir et être à jour en ce jeudi 1er octobre, en attendant tous ensemble, nous allons entendre des mots doux avec l'envie d'aimer de Daniel Lévy sur votre radio chrétienne. Si vous êtes reparti de chez vous pour aller au travail, attention sur la route, il est 12h50.
C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde autour, à qui le veut, vraiment, c'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout pourtant qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher.
Présence à Auch 89.6.
Le rappel des titres. Le maire de Toulouse entendu par le Premier ministre aujourd'hui. Le maire de Paris, à Lille, Lyon, Grenoble et Toulouse seront reçus par le Premier ministre Jean Castex afin de discuter d'éventuelles adaptations des mesures de restriction en raison de l'épidémie de Covid-19. Jean-Luc Moudenc devrait être accompagné du directeur général de l'Agence régionale de santé et du préfet de Haute-Garonne. L'inquiétude grandit dans les EHPAD de Haute-Garonne. Ce sont 77 sur 131 établissements qui sont ou ont été touchés par le coronavirus, soit 60% des établissements du département. Le ministre de l'économie a donné la liste des services des finances publiques qui vont être décentralisés en Occitanie. 5 communes sont concernées, Mende, Perpignan, Tarbes, Cahors et Decazeville. Diminution de la consommation d'électricité pendant le confinement en Occitanie comme dans d'autres régions de France. La commission d'électricité a fortement chuté jusqu'à 15% et n'a toujours pas retrouvé son niveau habituel. Les terrasses étendues sont prolongées jusqu'au 31 décembre dans la Ville Rose. À Toulouse, les 350 bars et restaurants ayant obtenu une autorisation d'extension de terrasse en juin pourront les conserver jusqu'au 31 décembre s'ils respectent bien sûr les mesures sanitaires. 6 personnes en garde à vue soupçonnées de financement du terrorisme. 29 personnes, dont 6 en Occitanie, ont été arrêtées et placées en garde à vue après une vaste opération antiterroriste menée en France mardi. Des perquisitions ont eu lieu notamment dans l'Hérault, le Gard, en Haute-Garonne. Un collectif pour protéger les chevaux des mutilations dans le Tarn-et-Garonne. L'idée de SOS Chevaux, dissuader d'éventuels actes de malveillance alors que des équidés sont mutilés sur l'ensemble du territoire. Le Toulousain Hugo Gaston se qualifie pour le troisième tour du tournoi de Roland-Garros. Il s'est qualifié hier pour le troisième tour de Roland-Garros en éliminant le japonais Yoshihito Nishioka, 52e mondial en 4-7. Le fragment du tableau à la bataille de Constantin contre Maxence de Nicolas Tournier, acquis par le musée des Augustins. C'est un collectionneur qui a alerté le directeur du musée des Augustins de Toulouse 3 jours seulement avant la vente. La météo avec un rapide coup d'œil. Prenez votre parapluie pour cet après-midi. Des averses partout dans l'ex-région Midi-Pyrénées. 16 degrés en moyenne. Demain matin, ça ne change pas. Un temps très agité tout près de l'église Saint-Maur à Martel avec 12 degrés ainsi qu'à Rodez. Et de fortes pluies pour Lourdes, 13 degrés à côté du cinéma de Blagnac et dans le Gers. L'après-midi, ce sera exactement pareil. Il fera mauvais dans l'Occitanie. Le Capitole à Toulouse sera sous les trompes d'eau. Un petit 13 degrés ainsi qu'à Auch et Montauban, 12 dans le Lot et 10 dans l'Aveyron. À suivre pour votre programme Radio Vatican et moi je vous dis à demain.
Radio Présence à Pau 96.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
De Radio Vatican.
Plus de
transparence, comme le demande le pape François. C'est dans cette logique que le préfet pour l'économie du Saint-Siège